midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les livrent. Bonjour, bienvenue. Mon invité aujourd'hui, c'est Akil Tadjer. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Écrivain, scénariste... Et décongeleur d'idées, c'est ça? Ou de mémoire?
Décongélateur de mémoire.
C'est vous, ça? Ça bah, vous ressemble? Sais. On peut vous faire réparer chez Darty?
Non, je répare pas ces mémoires-là.
Vous publiez La guerre... qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas La guerre, c'est D'amour et de guerre, aux éditions Les Escales. Retour au roman pour vous. J'ai appris une chanson dans votre livre.
Oui.
Une chanson sur les colonies. D'où elle vous vient?
La chanson sur les colonies, je l'ai quand même un peu inventée.
Ah oui, parce que je l'ai cherchée partout, je ne la connaissais pas. Non, ah, c'est vous qui l'avez inventée?
Ah oui, oui, oui. Parce que j'ai déjà écrit des paroles de chansons. Donc,
Oui, mais c'était du rock.
Oui, c'était du rock, mais pas que. Quand on écrit du rock, on peut écrire des paroles sur la colonisation.
D'accord, donc ça c'est de votre mémoire, hein. Faut pas chercher... D'accord. Il y avait une BD également aussi que lit votre héros Adam.
Oui.
C'est.
Voilà.
Ouais.
Gentil petit Africain.
Ouais. Tel quel, elle n'existait pas. Dans le soir d'Alger.
C'est l'écho d'Alger.
L'écho d'Alger, pardon.
Voilà. Bah, il y a eu un début et après ils ont arrêté. Donc moi j'ai profité parce qu'évidemment le titre fait écho à l'histoire justement.
Alors c'est l'histoire de Zina et d'Adam. On prononce le M.
Ben oui, on prononce le M parce que c'est écrit M, quoi. Il n'y a qu'en France qu'on ne prononce pas le M et qu'on dit un N. J'ai jamais su pourquoi, entre parenthèses.
Bon, en tout cas, Adam, hein, bah parce qu'on le lit mal et qu'on pense, on fait un raccourci, on pense que c'est Adam, tout simplement. je vous donne une explication, mais moi j'ai prononcé le M. Hein.
Oui, c'est bien.
Mais vous avez répondu à une interview récemment où le gars l'a appelé Adam tranquille. Hein.
Oui, bah parce que de guerre lasse.
Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, Adam et Zina s'aiment.
Oui.
C'est la plus belle ville du village. Alors, l'action se passe à côté de El Exer. Hein, ça s'appelle Bouzoulem.
Oui, c'est le village d'où étaient natifs mes parents. Donc, parce qu'en fait, quand j'écris sur l'Algérie, comme je n'y ai jamais vécu et que voilà, je ne connais pas parfaitement l'Algérie, mais je connais parfaitement ces endroits. Donc El Exer, qui est la grosse ville, et Bouzoulem, un village reculé dans la montagne. Donc, en fait, ça me permet de... Mon Algérie, elle se limite essentiellement à ça dans mes romans.
C'est vrai.
Oui.
Moi, Bouzoulem, j'ai mis un Z. Hein.
Ben, c'est bien.
Dans votre livre, vous avez mis un S. Hein.
Oui, oui, oui.
Parce que du coup, je suis allé vérifier où c'était Bouzoulem.
Mais oui.
Mais j'ai bossé, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est où Bouzoulem? Parce que je connais, El Exer, on connaît.
Ouais.
Mais Bouzoulem, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette ville?
Bah, parce que c'est un petit village qui ressemble à beaucoup de petits villages en Kabylie. S'il ne passe pas grand-chose, si ce n'est l'ennui, ce qui est déjà pas mal. Et quand on connaît l'Algérie, donc s'ennuyer, c'est déjà un luxe. Donc, ça se passe dans ce village.
Voilà. Et nous sommes en octobre 1939, quand commence l'histoire. Et alors, on a appris que, par exemple, Zina et Adam ne sont jamais allés à Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, c'est une ville dont ils rêvent ou qu'ils imaginent, mais ils y sont jamais allés.
Bah, déjà parce que à cette époque, on ne se déplaçait pas. Hein. Le moyen de locomotion pour les paysans et les gens les plus modestes, c'était le bourricot. Donc, avec un bourricot, vous allez au maximum à El Exer, c'est-à-dire à 3-4 kilomètres. De Bouzoulem. Donc, ces noms de villes comme Bouji, on disait Béjaïa ou Bouji à l'époque. Enfin, on va dire Bouji.
En 39, on devait encore dire Bouji.
On devait dire Bouji.
Ouais.
Et tout ça, c'est des noms de villes mythiques. Bouji, c'est un port, c'est-à-dire c'est une ouverture sur le monde, un monde qu'on connaît pas. C'est incroyable pour ces gens-là qui sortent pas d'un périmètre de, voilà, de 10 kilomètres. Et Tizi Ouzou, on l'entend comme une grande ville avec des immeubles, avec de l'eau qui court dans les appartements et pourquoi pas des douches et puis des grandes avenues et des automobiles alors qu'on n'a pas tout ça au village, quoi. Donc pour eux, c'est Las Vegas quasiment.
Alors Adam, c'est le fils d'Idir, le soldat Idir Ait Amar. Il a fait la première guerre, 14-18, il s'est battu pour la France, le père. Le fils est né quelques mois après le retour du père, hein, il est né en 19. Et Adam est amoureux de Zina et ce qu'il imagine comme vie, ça serait de se marier avec elle, la femme qu'il aime le plus au monde. Et ça ne va pas se passer comme ça, puisqu'un jour, il reçoit une lettre que sa tante a gardée dans sa poche pendant une semaine et qu'elle lui remet avec du retard. Et bim, il est enrôlé pour l'armée.
Oui. Bah beaucoup, comme beaucoup de jeunes de cette époque, c'est-à-dire que c'est 39, on sonne, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale, et puis voilà, on va faire comme en 14, on va ramoter tout ce qu'il y a comme jeunes gens qui habitent les colonies, à savoir toute l'Afrique du Nord. On va mobiliser et des Marocains et des Algériens qui seront l'essentiel de la troupe coloniale. On va même en chercher jusqu'à la Réunion. En fait, on va faire tout ce dont on a besoin pour faire de la chair à canon, parce que ces gens-là qui sont pas du tout instruits militairement, on va leur apprendre ça en espèce de 15 jours. On va les mettre en avant, et puis comme on a fait en 14, et puis ça sera les premiers à mourir, et ce sera les derniers dont on se souviendra.
Mmh. Adam, lui, préfère prendre le maquis plutôt que d'aller se battre, et donc il devient déserteur, et il est attrapé, donc il va partir, il part au front. C'est comme ça qu'il découvre Bougie. Hein.
Ben voilà, ouais. C'est une forme d'aventure, une aventure dont il se serait bien passé, mais c'est aussi une découverte du monde, une espèce d'initiation à un monde, évidemment, qu'il ne connaît pas et qui, surtout, il ne voulait pas connaître, parce que son père est mort dans d'atroces souffrances avec des remerciements de l'autorité coloniale inexistants. Personne n'est venu à son enterrement, et lui s'est juré, justement, de ne jamais partir, de ne jamais tomber pour la France, parce que aucune reconnaissance.
Dans ce qu'il appelle, lui, la vraie France, d'ailleurs. Hein. Enfin, ben que tout le monde appelle la vraie France. Hein.
Ben, parce qu'on appelle la vraie France, parce qu'il y a des vrais Français. Parce que quand on sait la manière dont a été colonisée l'Algérie, parle du peuplement, je parle. Il y avait très peu de vrais Français. Il y avait quelques communards, quelques trucs, mais sinon, c'était beaucoup des Italiens, c'était des Maltais, c'était des Espagnols. L'Algérie a été colonisée par des noms français.
D'ailleurs, on retrouve les noms quand on voit l'origine des noms des premiers qui arrivent.
Il n'y en a aucun.
Il y a des Martinez, des Gonzalez.
Il n'y a pas beaucoup de Martin, ni de Durand, ni de Dupont. Et donc, pour eux, c'est...
Peut-être quelques de l'Est, de la France.
Hein, ceux qui sont, parce qu'en fait, ils ont été exilés là-bas. Mais sinon, il y a très peu de paysans d'origine... terrienne française, quoi. Et puis personne n'avait envie. Les noms français que vous trouvez en Algérie sont souvent des militaires qui sont restés là-bas. Qui sont installés là-bas, qui sont devenus des propriétaires terriens. Sinon, c'est tous des gens d'origine étrangère par rapport à la France. D'où la vraie France, la fausse France. C'est-à-dire que la souffrance. Au sens France comme au sens figuré.
Dans le langage des oiseaux, souffrant, c'est bien. vous vous amusez à dépeindre la société coloniale de 1939. D'abord, Zina et Adam, qu'est-ce qu'ils savent de la colonisation, finalement, en 1939 est-ce qu'ils comprennent quelque chose? Et qu'est-ce qu'ils savent de la façon dont l'Algérie a été colonisée par les Français?
Non, je pense que ça, à cette époque, très très peu de gens... Quelques lettrés peut-être, mais en 39, l'Algérie est déjà analphabétisée, c'est-à-dire qu'il n'y a déjà plus d'école pour les plus jeunes. Elle est réservée à l'élite, évidemment aux Français et aux colonisateurs. Elle est réservée à une élite juive qui a été naturalisée grâce au décret Crémieux. Mais le reste, les indigènes, comme on les appelait, eux, ils sont complètement exclus du système scolaire. Comment savoir d'où vous venez, s'il n'y a aucune trace ni rien, et toutes les archives ont été emportées en France. Il faut savoir que toutes les archives concernant la conquête de l'Algérie, c'est-à-dire l'histoire de ce pays, toute l'état civil de ce pays, les gens qui habitaient de ce pays, a été envoyé en France. C'est-à-dire que eux n'ont même plus d'état civil, n'ont même plus d'histoire. Ils savent même pas comment ils ont été colonisés. Par qui, pourquoi, ni rien. D'ailleurs, ils ne savent même pas pourquoi, du reste.
D'ailleurs, Adam, lui, toute cette histoire, il l'apprend quand il est en France. Hein.
Il l'apprend quand il est en France, voilà. Comme beaucoup, d'ailleurs. Ouais. Beaucoup ont appris l'histoire de leur pays en France. Ceux qui avaient appris un peu à lire, soit ils étaient rentrés dans des usines comme chez Renault ou je ne sais pas quoi, et puis ils ont pris des cours du soir d'alphabétisation. C'est comme ça qu'ils sont un peu instruits de leur histoire. Mais quand vous êtes en 39, mais c'est... ils sont dans, face à un vide sidéral et angoissant, parce que quand vous ne savez pas à une génération près, c'est-à-dire que vous n'existez que par rapport au récit de votre père, mm-hmm. et peut-être même pas de votre grand-père.
Oui.
Et quand vous savez que finalement nous sommes que ce dont nous nous souvenons, et quand on ne se souvient pas grand-chose, on n'est pas grand-chose, quoi.
Et d'ailleurs, en 39, c'est marrant parce que les bruits de la grande histoire, ça arrive par les journaux encore. Mais les journaux de la veille, quoi. Donc, on n'est pas dans l'immédiateté de ce qui se passe dans le monde.
Non, la notion du temps, enfin, telle que j'ai pu la lire, telle que j'ai pu la comprendre, telle que j'ai pu la sentir, elle n'a rien à voir avec la notion du temps qu'on peut avoir en France en 39, où on est quand même, il y a quand même déjà la radio, il y a des quotidiens qui arrivent de façon quotidienne. Là, parfois, les journaux arrivent avec 15 jours de retard.
Oui, l'info immédiate, c'est la radio qui la donne, ou peut-être les infos du cinéma.
Et puis le téléphone arabe, beaucoup.
Voilà. Dans les camps, surtout. Vous parliez d'instruction et de scolarisation tout à l'heure. D'ailleurs, vos deux héros, hein, Zina et Adam, ne sont pas scolarisés. Et eux, ils écoutent à la porte, mais c'est même pas à la porte, hein, c'est à la fenêtre de l'école, ce qui se passe. Et Adam devient l'élève le plus brillant de toute sa promotion, d'ailleurs.
En fait, il y a quand même dans ce tableau, quand même, qui est très sombre pour quand vous êtes indigène, il y a quand même des gens qui sont aussi
sympas.
C'est surtout une certaine idée de la France, c'est-à-dire une certaine humanité, une certaine idée des valeurs de la France. Que colportent pas les gens qui vivent là-bas.
Parce là,
que
c'est l'instit. Là, c'est l'un.
C'est l'instit qui vient de France.
Ouais.
Donc, qui est déjà pétri d'une certaine culture, des valeurs de l'humanité, de choses comme ça. Et il voit bien qu'il y a des injustices criantes dans ce pays. Et que c'est pas lui, à son niveau, qui va les réparer. Sauf qu'il s'est pris de tendresse pour ces deux jeunes amoureux qui sont Adam et Zina. Et puis, il voit bien que c'est des jeunes qui ont un soif de savoir et comment transmettre ce savoir à ces jeunes à qui on interdit l'école. Et lui sait très bien que en ouvrant les fenêtres de sa classe, et ben ces deux jeunes gens qui écoutent tout le temps vont s'instruire à leur manière, et ils sont tellement amoureux des lettres françaises et de la culture française qu'ils vont devenir très très brillants.
Akita Djer est là pour nous parler de son nouveau roman, ça s'appelle D'amour et de guerre, aux escales, ou faites escale sur Beurre FM jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
C'est le retour d'Akita Djer au roman. Si vous aimez les romans historiques, Akita Djer, vous vous êtes intéressé à une époque de l'histoire qui est peu évoquée. 39, 44, hein, on va jusqu'à la libération de la France dans un roman qui s'appelle D'amour et de guerre aux escales. Vous êtes replongé dans cette histoire, dans cette Algérie. Alors, vous n'êtes pas intéressé trop à la période vichysoise de l'Algérie, qui aurait pu être un autre sujet, hein. Puisque...
En fait, je ne me suis pas intéressé à la période vichysoise parce que je suis un personnage. Je suis suivre. Et je suis parce que c'est écrit à la première personne. Et qui ne voit
il
pas
la
vit, cette
il
histoire.
Il ne la vit pas puisqu'il
il
est en France.
Il ne la vit pas cette histoire. Il ne la vit pas. Il est dans une France où Vichy a déjà capitulé, donc il ne connaît pas toute cette histoire. Et de toute façon, il ne comprend l'histoire qu'à travers ce qu'il vit au jour le jour. Parce qu'il ne connaît même pas l'histoire de la France à la vérité. Il est plongé dans un monde inconnu, où on lui a dit « tu vas combattre des Allemands qu'il ne connaît pas », dans une France qu'il ne connaît qu'à travers les livres.
On lui a dit les boches.
Les boches, voilà. Boches.
J'ai appris que ça voulait dire quoi, boches ?
C'est une tête dure, tête en bois.
Tête en bois, tu vas aller combattre les boches. D'ailleurs, au début, ils sont plantés le long de la ligne Maginot.
Ah oui, et ils sont plantés, donc ils attendent, hein.
Ils ne font pas la guerre, c'était une guerre.
Et les armées sont chacune de chaque côté du Rhin, et ils s'insultent tous les soirs. Et c'est d'où l'idée de la drôle de guerre.
C'est intéressant parce qu'en fait, les Allemands diffusent dans des haut-parleurs des messages donc à destination de l'armée des colonies, comme on disait, et à la destination des officiers français. Ça, c'est vous qui les avez aussi inventés.
Ça, c'est vrai. Parce que j'ai fait quand même beaucoup... Quand on écrit un livre comme ça, on peut pas... la fiction, évidemment, joue le rôle moteur.
Je me suis fait avoir par la chanson, c'est pour ça.
Ah bah oui, donc là, voilà, c'est un roman.
Maintenant, je me méfie, j'y vais...
Donc, mais ça, c'est vrai. Ils s'envoyaient des messages les uns les autres. En fait, ce qui se passait, c'est que les Allemands essayaient de récupérer les soldats coloniaux. se disaient bon, il va falloir qu'un jour peut-être ils se retournent contre leur oppresseur, et comment comment faire, c'est en diffusant des messages en leur disant en gros vous, ils vous prennent pour des moins que rien et depuis tout le temps, et vous allez servir de chair à canon, et si vous vous retournez contre eux et si vous venez avec nous, vous allez voir comment vous allez être bien traité. Donc quand on connaît l'idéologie, on était sûr que les Arabes et les Noirs, ils allaient être super bien traités.
D'ailleurs, alors il y avait des messages hein, dans les haut-parleurs, donc je vous cite.
Oui.
Nous disons, soldats nègres et arabes, ne mourrez pas pour la France, rendez-vous, nous saurons respecter vos droits et votre dignité.
Voilà.
C'est ce qu'il disait.
Oui.
Et donc ce qu'il disait aux officiers, nous disons, messieurs les officiers français, pendant que vous êtes au front, vos femmes vous font cocu avec vos alliés anglais.
Oui, mais c'est très vrai tout ça.
Ce sont des vrais messages.
Oui, ce sont
propagande.
Vraiment... propagande, et donc chaque armée repartait de son côté tous les soirs en attendant la guerre qui ne venait pas, d'où l'expression de la drôle de guerre. Quand on dit la drôle de guerre, c'est que à chaque fois ils se demandaient mais quand est-ce qu'elle va démarrer cette guerre, puisqu'on s'insulte tous les soirs et tout, et ça ne pète jamais jusqu'au jour où la drôle de guerre n'a pu amuser personne, quoi.
Quand on parle de cette France en Algérie dans les années 1930-1940, il y a quand même tout ce qu'elle avait réussi à organiser. Il y a un personnage intéressant, c'est le personnage du caïd, par exemple. Qu'est-ce qu'il incarne, le personnage du caïd?
Bah, il incarne la soumission à l'ordre colonial. C'est-à-dire qu'on a choisi les gens qui étaient peut-être les plus lettrés dans leur langue, à savoir l'arabe ou le kabyle, mais surtout les gens qui étaient des propriétaires terriens, les plus riches, qui avaient déjà beaucoup de paysans sous la main. Donc on leur a dit, tu vas être représentant des indigènes. Et donc évidemment, quand vous donnez un petit pouvoir à quelqu'un qui n'en a pas beaucoup, même s'il sait qu'il est là pour faire les sales besognes, il en fait des caisses, comme on dit familièrement.
Ouais.
Et donc c'était souvent des gens assez ignobles, pour dire la vérité.
Oui, puisqu'il avait installé lui-même son propre système de répression, hein,
voilà,
et de punition.
De punition, c'est-à-dire qu'en fait, ça allait de si vous faisiez, je sais pas, du tapage nocturne hors fête, etc. Vous étiez condamné à travailler dans sa ferme pendant un mois. En fait, des trucs. Alors tout ce qui était de l'ordre du rapport avec par exemple avec un ouvrier ou n'importe qui. Français, pour le coup. Lui, il n'était pas compétent pour juger ça.
D'accord.
Il était compétent que pour juger les gens qui lui étaient semblables. Pour vous dire déjà la hiérarchie des choses.
Officier de justice aux affaires indigènes.
Oui.
C'était son titre officiel. Hein.
C'est son titre, et il y avait beaucoup, ça, qui étaient des supplétifs, déjà, on peut dire.
Gardien de l'ordre colonial. Oui, des supplétifs.
Oui, ouais, en fait, c'est ça. Hein. Ça a continué après, jusqu'en 62. On s'est servi de gens comme ça, soit en les manipulant. Où il y en a qui étaient manipulés de leur plein gré, hein, et qui étaient
des lèche-bottes, comme vous dites.
Bah, c'est surtout qu'ils pensaient que c'était un état de fait accompli, que ça pourrait durer des siècles et des siècles et des siècles. Alors bon, autant faire son beurre sur place, quoi.
Adam va sur le front, mais il n'est pas du tout candidat. Et ce que vous montrez dans votre livre, c'est que beaucoup de gens et d'Algériens qui sont allés combattre en France sont des gens qui ont été obligés de le faire.
Bah beaucoup, parce
qu'ils sont allés manu militari.
Bah il y en a beaucoup qui ont été pris sur place en Algérie. Par exemple, il y a des jeunes gens qui avaient 20, 25 ans, qui avaient déjà fait l'armée, ont été pris comme rappelés, c'est-à-dire qu'ils allaient faire leurs courses au marché. Les gendarmes leur tombaient dessus. On disait, mais t'as quel âge? Je sais pas, j'ai 25, 26 ans. Tu as déjà fait l'armée? Ils disaient, j'ai déjà fait l'armée. Maintenant, tu vas aller faire la guerre. Et en 24 heures, ils étaient raflés. Ils étaient embarqués dans des bateaux pour se retrouver avec un uniforme, un fusil pour aller sur un front.
Ça, il faut comprendre, hein, ça, que c'est les gens, ils étaient pas volontaires pour y aller.
Parce que ce
qu'on
appelle...
les a raflés. Ouais.
Oui, c'est ça, on les a pris de force, quoi. Le mot rafle paraît presque
bon.
Anachronique,
oui,
mais c'est ça, quand vous sortez, quand vous êtes dehors, vous partez acheter des allumettes et que vous revenez pas, et que vous vous retrouvez 15 jours après sur un Grenoble ou à Haubourdin dans le Nord et tout, sans avoir prévenu votre famille et tout, c'est d'une violence extrême. Alors, beaucoup se sont retrouvés dans ce cas, et ce qu'on appelait les tirailleurs, parce qu'il y avait des tirailleurs aussi, marocains, algériens et tout, qui eux étaient des militaires. Donc eux, ils avaient.
Mais ils étaient engagés.
Oui. Ils étaient engagés. Et faut voir aussi comment étaient engagés la plupart des tirailleurs aussi. Voilà. Parce qu'on se dit oui, ils ont le baroud dans le sang, ils sont nés pour faire la guerre et tout. En fait, toutes ces images, j'allais dire d'Épinal, mais c'est même pas Épinal. C'est que souvent les gens qui rentraient dans les tirailleurs, et ça vaut parce que quand on dit les tirailleurs africains, c'était tous les noirs. Hein. Pas, ça allait de la Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, tout ça, ça rentrait dans les tirailleurs africains. C'est que, en fait, les gens qui rentraient dans les tirailleurs, c'était souvent les derniers de la famille. Parce qu'on ne pouvait pas les nourrir, ils n'avaient pas d'argent, on leur disait, tu vas aller dans l'armée, et tout, moi, tu vas manger, tu vois. Et donc, beaucoup sont rentrés comme ça dans l'armée. C'est pas des gens qui ont quelque chose et qui sont programmés génétiquement pour aller tuer des gens. C'est que, c'est la famine qui les faisait rentrer dans les casernes. Et souvent, il y a eu des mutineries pour ça.
Et alors, et parmi ceux qu'on envoie au front, alors il y a les juifs, il y a les, enfin tout le monde est mis dans le même sac en fait.
Bah tout le monde, parce que à l'époque.
Est-ce que vous appelez les Roumis, vous là, oui. Ils appartiennent à quelle catégorie les Roumis?
Bah en fait c'est les Français d'Algérie, ce qu'on appelle les Européens, parce qu'en fait les Algériens disaient les Européens, ils disaient pas les Français d'Algérie parce qu'ils savaient, ils connaissaient des Français, ils voyaient bien que ça ressemblait pas à ces gens-là. Mmh. Les Français, ils parlent français, ils parlaient pas espagnol, ils parlaient pas italien, ils parlaient pas maltais. Ils savaient très bien qu'ils appelaient les Européens d'Algérie.
Mmh. Donc eux aussi, on les envoie au front.
On les envoie au front aussi. Et tout, on envoie tout le monde au front, tous ces gens-là, parce qu'on a besoin, on a besoin d'hommes, quoi. Donc ça suffit pas. La guerre 14 a déjà fait des ravages dans la population française. Bon, enfin, vous connaissez au sein beaucoup de veuves, etc., qui sont retrouvés. Donc il nous faut encore du sang frais. Donc on va les chercher très loin. Enfin, en Algérie, c'est le plus près, en l'occurrence. Parce que l'Algérie, c'était la France, et les autres, c'est des protectorats. Donc, on considère que, voilà, ils sont corvéables et tout pour aller au front. Et donc, ce que j'appelle les Roumis, c'est, voilà, parce que
c'est les Européens à l'époque d'Algérie, les Français d'Algérie.
Voilà. Ouais. Et pourquoi on les appelait les Roumis? Parce que, en fait, ça vient du mot romain, qui était des envahisseurs à une autre époque. Et ils ont gardé ce terme pour dire, tous les envahisseurs, ils les appelaient des Roumis, quoi.
Alors, ils sont affectés au 13e bataillon des tirailleurs algériens. Et donc, qui appartient à ce qu'on appelait le Rana.
Le Rana.
Voilà. Et le Rana, c'était le.
Bah, c'était le.
C'était l'armée des colonies, c'était quoi?
Oui, c'était une des armées des colonies, et qui n'était pas forcément commandée par des coloniaux, en plus. C'était souvent des colonels.
Des officiers français?
Oui, c'était souvent des officiers français, et puis ils leur parlaient comme à des enfants, quoi. La France vous aime, vous allez mourir pour elle, etc. Elle saura être reconnaissante, sauf que beaucoup de ces soldats ont eu leurs parents déjà qui avaient fait 14. Donc la reconnaissance, ils savent
qu'elle n'avait pas eu lieu pour les parents. Oui, bien sûr. On apprend de la bouche d'Adam que la synagogue en Algérie, il l'appelle la mosquée des Juifs. C'était une expression qu'on utilisait à l'époque.
On l'emploie encore aujourd'hui. En fait, moi je suis kabyle, donc en arabe, je sais pas. J'ai appris qu'il y a un mot en arabe, évidemment, mais en kabyle, on appelle ça Jama al-Yehoud, c'est-à-dire la mosquée des Juifs. En fait, parce que mosquée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'assemblée. Hein. Une mosquée, c'est une assemblée. Donc, c'est pas étonnant que quand on traduit, on dit l'assemblée des Juifs. Mais en arabe, il y a un mot, et je l'ai appris en écrivant. Parce que j'avais demandé comment on dit une synagogue en kabyle. Des kabyles...
Compétent en la matière.
À dire point. Des maîtres de la traduction.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les maîtres de la traduction?
Écoute, on te rappelle, on va réfléchir à la question. D'autres m'ont dit, écoute, je vais étudier, je connais quelqu'un qui a fait des études, qui est assez pointu sur la question. D'autres m'ont dit, écoute, je crois qu'on dit la mosquée des Juifs. Et je lui dis, ouais, d'accord, mais bon, si c'est pour traduire ça, je le sais. Et d'autres ne m'ont jamais rappelé. Donc, j'en ai déduit que tout ce que j'avais entendu en allant en Algérie...
méritait de figurer dans votre roman.
Oui, puis je trouve que c'est pas péjoratif en plus. Même les Juifs, hein, je veux dire, sauf en hébreu, mais quand ils le disaient en kabyle... Moi, j'ai connu des kabyles juifs, hein, qui disaient, qui appelaient ça comme ça.
Oui, non, je voulais savoir si c'était une appellation qui était datée sur cette époque-là, ou si, voilà, si c'était...
Je crois qu'ils l'emploient encore.
Hein. Ouais.
De toute façon, il n'y a plus de juifs en Algérie, alors il l'emploie même plus.
Commence une relation épistolaire. Ça aurait pu être un roman épistolaire, finalement.
Bah, c'est aussi
Avec Zina, parce qu'à partir du moment où il est embarqué pour aller au front, il s'absente 5 ans, hein, d'Algérie, de 39 à 44, quoi. Donc, Et il lui écrit sur ce petit carnet rouge.
Ouais, il lui écrit déjà tout son amour, tout son rêve de la retrouver un jour. Et surtout, ce carnet lui sert à écrire ce qu'il vit, parce qu'il n'a pas envie de lui raconter le jour où il la retrouvera. Mmh. Il n'a pas envie de lui parler d'horreur, il n'a pas envie de lui parler de ce qu'il a subi, de cette découverte de cette France qu'il ne connaissait pas et de l'image faussée qu'il en avait. Il n'a pas envie de lui parler de tout ça. Il a envie de lui parler d'avenir et de leur amour qu'il espère éternel. Donc, alors, toutes les horreurs, toutes les choses qu'il a subies, qu'il a vécues avec ses compagnons, il les met dans ce carnet.
Mais lui, il envoie pas.
Ah non, il lui envoie pas. Il veut lui remettre.
Il y a son adresse derrière au cas.
Au cas où
il lui arriverait
mal. C'était aussi une manière de décrire ce que lui vivait au quotidien.
Bon, on va pas spoiler la fin du roman parce que il va y avoir une suite.
Bah, on y réfléchit sérieusement.
Ouais, il faut. Vous pouvez pas nous laisser comme ça. Akli Tadjer est avec nous pour parler d'amour et de guerre. C'est le titre de votre nouveau roman et c'est publié aux Escales.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Akli Tadjer est mon invité jusqu'à 13h et on parle de votre nouveau roman, ça s'appelle D'amour et de guerre aux Escales. Très beau roman historique. Pour tous ceux qui sont passionnés par l'Algérie, là on est sur une bonne époque qu'on connaît mal, qui est encore très peu explorée par les romanciers. Et puis Adam qui va aller faire cette guerre en France. En fait, il combat peu finalement parce que il se retrouve dans un front de stalag. Et là aussi, vous nous faites découvrir des camps dont on connaît mal l'histoire. Qu'est-ce que sont ces fronts de stalag?
En fait, comme il y a eu une déroute assez vite, les Allemands étaient tellement plus forts que la guerre était pliée très très vite. Les Allemands, en fait, ont...
L'armistice est signé le 22 juin 1940.
Voilà, certains ont même pas combattu, ils se sont retrouvés prisonniers. Et il se trouve que les Allemands voulaient pas emmener les soldats dits coloniaux, c'est-à-dire les soldats venus d'Afrique du Nord, des Antilles aussi. Parce que dans ce travail de recherche, je me suis rendu compte qu'ils étaient allés chercher aussi des soldats jusqu'aux Antilles. Vous vous rendez compte à quel point ils avaient besoin de...
Antilles, Madagascar.
La Réunion, ouais. Etc. Évidemment, toute l'Afrique. Et les Allemands ne voulaient pas les emmener chez eux. Ils ont dit, on n'emmène pas ces gens-là. Qu'est-ce que c'est que ces gens? On ne va pas ramener ces gens. Ils vont nous ramener des maladies. Et si... Par hasard, il y en a qui s'évaderaient, ils seraient capables de gâcher notre race et tout. Non, on ne veut pas de ces gens-là du tout. Alors, ils vont rester en France. On va construire des camps,
ouais.
C'est-à-dire à partir de rien. C'est-à-dire, au début, c'était simplement des pâtures. Ils étaient enfermés dans des camps qui étaient que des pâtures.
À ciel ouvert, c'est ça?
À ciel ouvert. Ouais. Ils sont restés des mois à ciel ouvert.
Il y a l'entrée, l'arche.
Voilà. Et voilà, l'entrée avec la croix gammée et l'aigle avec son gros œil jaune qui vous regarde sans arrêt. Et puis, une petite caserne avec des Allemands. Et puis, on leur demande de construire leur baraquement. Alors, les Marocains se mettent ensemble, les Algériens se mettent ensemble, et même parmi les Algériens, il y a déjà de la division parce que les arabophones se mettent ensemble et puis les Kabyles se mettent aussi ensemble. Et puis après, il y a les Antillais, enfin, espèce de
chacun a reconstruit son propre bled à l'intérieur du camp.
Voilà, avec ses codes, avec ses couleurs, avec sa langue. Et c'est ce qui est terrible, c'est que les Allemands ne veulent pas les garder non plus. On dit non, on garde les Allemands, on dit on ne garde pas ces gens-là.
D'où cette incertitude ce qu'ils vont devenir.
On ne garde pas ces gens-là. Alors, on va les donner à garder à qui? Aux gens qui les connaissent le mieux, c'est-à-dire aux Français d'Algérie.
Les Roumis.
Voilà. Et donc, les gens qui les ont embarqués dans cette guerre, d'un seul coup, deviennent leurs geôliers. Imaginez un peu ce qui se passe dans leur tête à ces gens-là.
C'est une histoire qui est assez mal connue. Je regardais les chiffres. Les Algériens étaient les plus nombreux des fronts de stalag. C'était tout de loin la première population de ces fronts de stalag.
Mais beaucoup ont découvert ça, cette histoire, qu'il y avait des camps en France réservés aux soldats coloniaux. Mais c'est une abomination, c'est une horreur.
Conditions d'hygiène, enfin, faut le dire.
Et la tuberculose, etc.
Adam, d'ailleurs, il attrape la tuberculose.
Ils étaient là, etc. S'il n'y a pas une bonne âme pour les soigner de temps en temps, mais c'était des animaux, quoi.
Il n'y a pas d'hygiène.
Encore, il y avait plus de respect pour les animaux que pour eux, parce que les animaux pouvaient s'en servir, tandis qu'eux, ils servaient, pour la plupart du temps, à rien. Ils coupaient du bois dans les forêts.
Ils étaient dans des camps de travail.
couper du bois pour partir en Allemagne, etc. Mais il n'y a pas du bois à couper tout le temps. Sinon, ils étaient là, oisifs, à perdre leur temps, et qui, dans, soit un soleil de plomb, soit la gadoue, et à ne savoir jamais s'ils allaient être libérés un jour. Imaginez ce que pouvait penser un jeune, à quoi, pourquoi je suis là, quel est l'intérêt, pourquoi je viens défendre une liberté qui m'est interdite dans mon pays et je suis encore prisonnier et gardé par d'autres Français.
Il y a beaucoup d'Algériens qui ont passé toutes jusqu'à la fin de la guerre dans ces fronts de salade.
Non, parce que ce qui s'est passé, c'est que les Allemands, parce que après il faut les nourrir quand même ces gens-là. Faut les nourrir, ça coûte, parce que c'est beaucoup. C'est pas 15 personnes, c'est des milliers, des milliers 60 personnes.
000, j'ai vu 60 000 Algériens.
Ouais, que Algériens. Imaginez les Marocains, imaginez les Africains, etc. Faut leur donner à manger. Donc, etc. Alors, de temps en temps, ils fermaient les yeux sur des évasions. Mais alors, le problème, c'est que, quand ces gens s'évadent, ils vont où? Ils connaissent pas ce pays, ils se retrouvent perdus dans des terres du nord et tout, ils se retrouvent au milieu de champs de patates, les fermiers voient ces gens, ils disent mais c'est quoi ces Indiens, d'où ils sortent et tout, ils parlent même pas français, et eux ils savent pas où ils sont puisqu'ils savent pas lire. Donc les panneaux indicateurs ne signifient rien pour eux. Et donc ils sont rattrapés par les gendarmes, qui eux les renvoient aux Allemands. Alors, de temps en temps, il y en a qui arrivent à aller plus loin. Ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui arrivent à aller jusqu'à Paris. Parce que là, il y a une communauté algérienne, voilà,
Et c'est le cas d'Adam, parce que lui, il sait lire, il sait écrire, qu'il est malin.
Voilà. Comme dans tous les romans.
Et il a fait du business.
Il y en a beaucoup qui ont fait du business aussi.
Pendant la guerre.
Beaucoup. Ouais. Et beaucoup se sont enrichis.
Grâce au marché noir.
Grâce au marché noir.
Ouais. Et alors, il y a plusieurs épisodes où les Allemands tue en priorité les Sénégalais. Est-ce que c'était quelque chose qui était une attitude généralisée?
Oui, parce qu'ils considéraient que...
Parce qu'on me regarde avec des grands yeux, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs scènes où ils font de la place aux Algériens, aux Marocains, aux Tunisiens, et qui flinguent les Sénégalais.
Parce qu'en fait, ils considèrent quand même que même si les Algériens sont décolonisés, ils ont quand même une histoire. Donc, c'est pas tout à fait des sous-hommes. Ils ont quand même une culture, ils ont quand même une langue, tandis que les Africains les considèrent vraiment comme des sous-hommes. Donc s'il faut faire du ménage, ça sera pas. Et puis ils considèrent pas une seconde que un jour ça puisse être des gens qui vont se libérer, qui vont avoir. Ils considèrent. Vous savez, ils disaient quand on disait à un Allemand, mais vous savez, un noir c'est un être humain comme vous. Il disait non, c'est pas un être humain comme moi. Il disait, par exemple, vous apprenez à un singe à faire ça, il va le faire. Ben noir, c'est pareil. Ben voilà le niveau de l'idéologie des nazis. Alors ils pensaient bien les terriers sénégalais. Et puis c'est surtout, ils pensaient que vraiment ils allaient. Et puis il y avait déjà aussi dans les années 39 et un peu avant quelques Algériens qui étaient quand même d'obéissance très fasciste. C'est ça qu'il faut le savoir, qui avaient déjà intégré l'idéologie fasciste pour se libérer. Donc il se disait que, bon, d'ailleurs il y a un fameux personnage dans mon roman qui s'appelle Mohamed El Mahdi, qui a existé, qui est pas un personnage de fiction, et qui était déjà très marqué par l'idéologie fasciste. Je dis pas nazi, hein,
sachant qu'il y avait le même ennemi commun.
Voilà. Bah, déjà le même ennemi commun, puis la même façon de penser, parce que c'est pas parce que vous avez le même ennemi commun que vous allez devenir nazi aussi du jour au lendemain. C'est qu'il avait déjà cette façon de penser. Donc il a essayé d'entraîner d'autres gens dans son aventure. Mais ça existait, ça. Hein. D'ailleurs, ils ont créé les brigades nord-africaines. Alors après, il faut pas non plus en faire
un outil. Enfin, on peut pas dire que l'Algérie s'est mise à collaborer massivement.
Non, pas du tout. C'est pas ça que ça veut dire. Non,
ouais.
Ça veut dire qu'il faut ramener les choses dans leurs proportions. Quand je dis, il y avait ce qu'on appelait les brigades nord-africaines, sur les centaines de milliers d'Algériens qui ont combattu, les brigades nord-africaines, c'était 300 personnes. C'est pas non plus le Troisième Reich qui défile à Paris non plus.
On va écouter Zina du groupe Babylone. Ça a été un tube incroyable et c'est l'héroïne de votre roman.
اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب بالمكتوب ونكون حداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقال لي حبيبك ما تنساه
هزينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا لك ما لقينا يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا لك ما لقينا قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي إيه سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا علي هجرني والعين اللي بكات وحالة سامحني علاش يا قلبي هواك غدرني راني مجروح شكون لي داويني هي يا رياح ودين غامي
C'était un tube énorme à travers le monde entier qui a popularisé ce prénom Zina qui veut dire quoi Clitager?
C'est-à-dire la beauté.
Moi je l'ai appris dans votre roman, non, je fais le malin, mais voilà. Histoire d'amour entre Adam et Zina, d'un amour sincère en tout cas.
Pur.
Pur, pur.
Ouais. Premier amour.
Premier amour qui dure toujours.
Espérons-le.
On attend la suite. Votre livre va être lu dans les classes?
Ah bah je l'espère, puisque c'est une partie souvent de cette période qui est méconnue. Au moins, je veux dire, il y a beaucoup de documentaires. Vous savez ce qui pêchait, c'est que il y a eu beaucoup de romans qui ont été écrits sur cette période et par des Allemands et par des Français, par des Anglais, des Français de la Résistance beaucoup, des Juifs qui ont subi cette période. Et même de la collaboration. Je me souviens d'un film qui s'appelait Lacombe Lucien, moi, quand j'étais jeune, qui racontait ça. Mais cette histoire...
Lacombe Lucien,
c'est magnifique, comme film. Mais cette histoire racontée par un jeune Algérien qui a vécu cette histoire, ça n'existait pas. Et moi, je me suis dit, il faut que je m'y attelle. D'abord, mon père a fait cette guerre aussi. Quand je vous dis qu'il y avait des jeunes gens qui étaient pris dans des marchés, qui se sont retrouvés sur un front... Après avoir fait l'armée, mon père était dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'il était parti... Il y en a qui vont acheter des allumettes et qui ne reviennent plus. Ben lui, il était parti au marché donc faire des courses.
C'était les gendarmes. Hein, donc là,
les gendarmes, ils l'ont embarqué. Ils ont dit, toi, t'es costaud encore et tout, etc. Tu vas aller au front. Et il a eu le temps de prévenir personne. Il s'est retrouvé dans un champ de guerre pour une guerre qui ne le concernait pas du tout, quoi, la vérité. Parce que beaucoup d'Algériens n'étaient pas du tout concernés par cette guerre.
Mais qu'est-ce qu'on leur disait?
On leur disait une rhétorique évidemment qu'ils imprimaient pas. On leur disait tu vas défendre la France, un beau pays, tu vois bien comment tu es respecté en Algérie, comment on te soigne, comment on s'occupe de ça, alors qu'ils voyaient bien que on se payait leur tête. on se payait leur tête. Et puis ils avaient pas du tout envie de traverser la Méditerranée, perdre leur attache affective, leur attache géographique, leur attache familiale pour se retrouver encore dans une pétrolière encore pire que celle qui vivait, dans laquelle il vivait.
Voilà, on termine avec une citation de votre livre, La guerre tue les rêves de jeunesse. Votre nouveau roman vient de sortir, Akitadjar, s'appelle D'amour et de guerre aux escales. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous pourrez voir la vidéo. Voilà, elle est là, la vidéo de l'émission, puisque vous avez été filmé à Cli sur la chaîne YouTube. Vous avez bien fait votre brushing aujourd'hui. Ça va être parfait pour la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous. Très bon dimanche à tous.
Pareillement.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.